Le 7-9 sur France Inter.
Le directeur général de l'ANSSI, vous allez nous dire ce que c'est, et votre invité Léa Salamé.
Ah, il faut que je répète. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Bonjour Guillaume Poupard, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
C'était une des grandes craintes de cette campagne électorale. Y aurait-il des cyberattaques sur les candidats qui pourraient influencer, manipuler le vote? Est-ce qu'il y en a eu? Quel bilan tirer?
Alors on n'est pas du tout à la fin de l'histoire. C'est vrai que on a observé ce qui s'est passé dans la campagne américaine. Il y a de vraies attaques qui ont été commises pendant cette campagne, avec des vols de mails notamment, de messagerie, avec une volonté très claire de nuire à certains candidats, notamment Hillary Clinton. Et donc quand on a vu ça, on s'est clairement dit il faut impérativement tout faire pour éviter que ça se produise en France. D'où l'intérêt d'une part de prévenir les différents candidats, ce que l'on a fait, et également de s'assurer que les autres réseaux informatiques qui vont être impliqués dans l'élection seront bien opérationnels le jour de l'élection.
Alors justement, par exemple, dimanche, qu'est-ce qui se passe pour éviter une cyberattaque, par exemple, sur le site du ministère de l'Intérieur?
Alors dimanche, c'est vraiment la fin. L'important, c'est de se préparer, parfois des mois en avance. Hein, c'est bien ce que l'on a fait avec le ministère de l'Intérieur. Tous les réseaux informatiques qui vont notamment collecter les résultats, qui vont les additionner, pour au final donner dimanche soir les premières tendances, puis les résultats définitifs. Ces réseaux ont été durcis, là où il le fallait. On a fait un travail de qualité, je pense, avec le ministère de l'Intérieur, de manière à résister à ces nouvelles menaces.
Mais c'est vrai qu'il y a 5 ans, elles peuvent... Aujourd'hui, on peut hacker le site du ministère de l'Intérieur dimanche.
On n'empêche pas les attaques, les attaquants d'essayer d'attaquer.
Ça fait rire Thomas Legrand, mais c'est pas très drôle.
Non, ça a rien de drôle. Non. On n'empêche pas les attaquants, on n'empêche pas le problème à la source. Ce qu'il faut, c'est être capable de s'en protéger. Et donc, on a tout fait pour s'en protéger. Et aujourd'hui, le réseau, je parle pas du site internet. Le site internet, c'est la façade quelque part. Mais le réseau propre du ministère intérieur va être robuste pour être capable de travailler.
En février dernier, Emmanuel Macron avait révélé avoir été l'objet de 4000 attaques informatiques en un mois. Il avait pointé du doigt les Russes. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'il a vraiment été attaqué et par des Russes?
Il y a deux précisions à donner. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une attaque informatique? Moi, j'ai l'habitude de dire qu'au niveau de l'ANSSI, on en traite une vingtaine par an. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose que l'on compte. Une vingtaine d'attaques, ça veut dire des attaques extrêmement graves qui touchent le potentiel économique de la France, qui touchent notre sécurité nationale. Donc des choses extrêmement graves qui touchent au cœur, d'une certaine manière. Et puis après, il y a des attaques périphériques. Un site internet qui est bloqué, un site internet qui est modifié, défiguré, comme on dit, c'est également une attaque informatique. Ce qui est arrivé aussi d'Emmanuel Macron, c'est en effet une attaque en déni de service. Donc son site internet, pendant quelques minutes, a été bloqué. Ça rentre dans la catégorie des attaques informatiques, mais ce ne sont pas des attaques fondamentales. Ça n'a pas eu d'impact majeur, à mon avis, sur la campagne électorale.
Et quand ils pointent les Russes, est-ce qu'ils...
Et ça, c'est l'autre question qui est intéressante. On a une vraie difficulté dans le cyberespace en général, dans ce nouveau milieu de combat, quelque part, il faut l'admettre comme tel, c'est que l'attribution, savoir qui vous attaque, c'est extrêmement difficile à savoir.
C'est la grande question.
C'est la question
la plus difficile.
Il ne faut pas chercher absolument à savoir qui vous attaque pour voir comment réagir, parce qu'en général, on ne sait pas qui attaque. On peut avoir une vague idée, on peut avoir de vagues preuves, mais de là avoir une certitude, c'est extrêmement difficile.
Mais justement, quand les renseignements américains, le FBI et la CIA ont fait un rapport officiel pour dire que oui, il y avait eu ingérence des Russes dans la campagne électorale à la faveur de Donald Trump et à la défaveur d'Hillary Clinton. D'où ils le savent que c'est les Russes?
Alors ça, ce qu'on a pu voir en source ouverte, comme on dit, donc ce qui a été publié, c'est vraiment du déclaratif. Il n'y a pas de preuves dans ces documents. Après, on peut tout à fait imaginer que les Américains ont fait du renseignement, ont des sources fiables qui ne veulent pas révéler. Et donc, quelque part, ces preuves, ils les ont, mais ils ne peuvent pas les montrer. C'est ça leur problème aujourd'hui, très probablement. Aujourd'hui, en France, on n'a pas de telles preuves. D'ailleurs, on n'a pas vraiment d'attaque que l'on pourrait comme ça attribuer de manière aussi violente aux Russes, aux Chinois, ou même à certains de nos alliés, d'ailleurs.
Aujourd'hui, pour la France, dans la cyberguerre qu'on vit, ce sont les Russes ou les Américains qui font le plus peur?
Les Russes, les Américains, les Chinois, les groupes terroristes, parfois des ennemis de l'intérieur. Malheureusement, les attaques peuvent venir d'absolument partout. C'est pour ça qu'il ne faut pas se demander qui va m'attaquer. Il faut se demander comment est-ce que je vais me faire pour me protéger.
Et est-ce que nous, on est bons en cyberattaque? Nous, la France, est-ce qu'on est bons? Est-ce
qu'on maîtrise? C'est une très bonne question. C'est pas moi d'y répondre parce que la France a fait le choix de séparer l'attaque et la défense, contrairement à nos alliés. Donc moi, je suis du côté de la défensif, protection. Mais en même temps, le ministère de la Défense... Je botte pas en touche parce que le ministère de la Défense assume pleinement le fait de développer une capacité offensive.
Donc aujourd'hui, il y a des chercheurs qui sont au ministère de la Défense. Expliquez-nous pour nous qui ne savons pas.
Il y a des ingénieurs, il y a des militaires qui probablement développent des capacités offensives parce que ce cyberespace devient un nouveau milieu. On a connu l'armée de terre, on a connu la marine, on les connaît toujours bien sûr, l'aviation. Dorénavant, il y a une sorte, bientôt, un jour, de quatrième armée qui va se créer pour être capable de combattre dans ce cyberespace. Mais au-delà du combat, de la capacité à combattre, il faut également être capable de faire la paix et être capable de se protéger. Il ne faut pas juste tout miser sur l'attaque. C'est vraiment un équilibre qu'il faut être capable de trouver.
Cyberespace, dites-vous, cyberguerre. Et vous avez déclaré en janvier, demain, on aura des morts du cyberterrorisme. Ça veut dire quoi, des morts du cyberterrorisme? Est-ce qu'il y en a eu déjà?
C'est vrai. Aujourd'hui, heureusement, il y a pas de morts directes liées à des cyberattaques. Et on les espère pas, c'est une évidence. Mais il y a un lien assez fort entre ce cyberespace qui peut paraître très éthéré, très numérique, tout ça peut paraître assez virtuel, et la réalité concrète aujourd'hui. Notre peur, ce sont des attaques qui viseraient des systèmes bien réels, des systèmes de transport, des systèmes de production d'énergie. Mmh. Imaginez, vous coupez l'électricité dans un hôpital, il y aura des morts. Alors, indirect, certes, mais il y aura des morts. Vous attaquez un système de transport, des aiguillages, des systèmes de signalisation, des choses comme ça, peut créer des morts. Donc il faut que l'on se prépare à ça. On le souhaite pas, mais on doit s'y préparer impérativement.
Il y a le cauchemar auquel on pense tous, c'est des terroristes qui prennent le contrôle du service informatique d'une centrale nucléaire.
Par exemple, mais malheureusement, les scénarios sont extrêmement multiples. Et dans tous les secteurs que l'on appelle d'importance vitale, j'ai cité l'énergie, j'ai cité les transports, mais on peut penser également à la finance, on peut penser aux télécoms. Tous ces systèmes sont des cibles et il faut vraiment les protéger parce que soit les terroristes vont les attaquer directement, soit ils vont trouver des sortes de cybermercenaires qui feront le travail pour eux. Et ça, malheureusement, ces mercenaires, on voit, ils existent aujourd'hui.
Ils existent sur notre sol également ?
En France, peu, je pense, sincèrement. Mais il y a des pays qui sont beaucoup plus permissifs.
Lesquels ?
Je ne peux pas les citer, évidemment, pour des raisons diplomatiques, mais on pense aux mêmes. Certains penseront comme moi. Non, l'important, c'est pas tant où ils sont, mais c'est le fait qu'ils existent. Et un jour, malheureusement, les terroristes vont être capables d'acheter leurs services. C'est peut-être déjà le cas. Et à ce moment-là, on aura une capacité d'attaque informatique contre nos intérêts vitaux. Et c'est ça qu'il faut impérativement protéger aujourd'hui.
Merci beaucoup, Guillaume, pour nous avoir parlé. Ce que vous pouviez nous dire, et puisque vous ne pouviez pas, on essaiera de le deviner. Merci à vous et très belle journée.